Merci d'écouter la Radio Copy, fidèles auditeurs. Nous allons poursuivre notre entretien avec le professeur Lupici. Notre professeur Norbert Lupici, il est sociologue et criminologue. Il intervient depuis Lubumbashi dans la province du Katanga. Professeur, vous êtes de nouveau en ligne.
Merci, je vous écoute.
Voilà, parfait. Maintenant, la communication est très bonne. Ma première question était de savoir qu'est-ce qui explique la montée de la délinquance juvénile dans les centres urbains de la RDC, particulièrement à Kinshasa, peut-être à Lubumbashi.
Merci beaucoup. J'étais en train de dire tout à l'heure que la question, vous la posez très facilement, mais les éléments des réponses se révèlent complexes. En tant que scientifique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de théories et des différentes tendances, des théories biologistes, des théories psychologiques, ainsi de suite. Mais dans tout ça, moi je suis partisan de la perspective sociologique qui jette un regard sur les mécanismes fonctionnels de la société. Donc ma réflexion va tourner autour de ça. Il y a plusieurs raisons.
Lesquelles ?
Il y a un auteur très intéressant, un Américain, Trasher, qui a étudié les gangs, comment les gangs se forment, comment ces groupes de jeunes fonctionnent, et il a aussi cherché à voir leur mobile. Mais vous allez voir qu'il donne plusieurs explications. D'abord, la première, quand il fait la cartographie, il considère que les gangs naissent généralement dans une société où l'on connaît le centre et la périphérie. Vous voyez donc une société à niveau de vie inégal. Et ces gangs ont tendance à se localiser dans des zones intermédiaires, entre les riches et les trop pauvres. Et quand on dit jeunes, nous devons vraiment faire attention parce que il s'agit d'abord d'une frange de la population qui est très importante.
Oui.
Et qui a beaucoup d'atouts pour agir dans tel ou tel autre sens. Donc c'est vraiment une question très importante. Donc je disais que Trasher considère que ces gangs naissent généralement dans une société à niveau de vie inégal. Ils se mettent à l'interstice entre les très riches et les très pauvres.
Alors prenons par exemple.
Mais maintenant, pourquoi ils font cela ? Ils sont à la recherche du bonheur. Ils cherchent à s'affirmer. Et c'est pourquoi leur situation mérite examen. Et par rapport à leur fonctionnement, le fonctionnement des gangs, ils considèrent que les gangs peuvent obéir à l'explication qui les considère comme relevant d'une organisation différentielle. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ces gangs des jeunes-là, ils considèrent que l'ordre en place ne répond pas à leurs attentes. Mais alors, ils pensent proposer leur ordre en s'organisant. Voilà ce que je puis dire dans un premier temps.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de rébellion contre l'ordre établi dans la société ?
Le mot rébellion sonne très fort, mais c'est une forme d'affirmation personnelle. Parce qu'il y a un autre auteur, Paul Grell, qui considère que la catégorie des jeunes, c'est en fait une catégorie des gens trop ambitieux. Ils veulent s'affirmer. Ils ne veulent pas l'humiliation et ils veulent à tout prix accéder au bonheur. C'est pourquoi chaque société, à mon avis, doit faire attention à cette catégorie de gens, parce qu'avec les atouts que cette catégorie a, elle peut tout faire, cette catégorie de gens. Donc, ils ne veulent pas s'humilier, ils sont à la recherche du bonheur et ils s'organisent à leur manière, une manière qui ne rencontre pas nécessairement l'ordre établi. Voilà.
Bien. Et généralement, ces jeunes gangs qu'on appelle communément à Kinshasa, les Kuluna, on retrouve beaucoup de mineurs, peut-être sûrement qui ne vont pas à l'école et qui sont issus des milieux défavorisés. Les parents sont pauvres et ils se lancent, ils s'organisent comme pour s'affirmer, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais on a remarqué depuis quelques temps, ils utilisent des armes blanches, particulièrement la machette. Est-ce qu'il y a une explication à cela, professeur?
Bon, je disais que mon explication était très limitée, mais si je fais aussi un petit pas en arrière, si je mobilise les explications psychologiques, vous allez voir que là, il y a une notion qui est exploitée, c'est la notion de personnalité criminelle. Mais la notion de personnalité criminelle a des traits qui les caractérisent ou qui la caractérisent. Entre autres, c'est l'agressivité, la brutalité. Donc, en réalité, je me répète toujours en disant que les jeunes, c'est vraiment une bombe à retardement, comme on dit, s'ils ne sont pas suffisamment encadrés, si leurs énergies ne sont pas canalisées dans le bon sens. Mais je crois que par rapport aux méthodes d'action, ça, moi, je considère que c'est une question secondaire. Mais c'est qui peut être considéré comme la question capitale, c'est le mobile de leur organisation. C'est le mobile de leur organisation. Par les actes qu'ils posent, à mon avis, ils lancent un message à la société. Mais quelle que soit la manière dont ce message est lancé, mais c'est un message qu'il sied d'examiner correctement. Voilà.
Bien. Nous avons un auditeur en ligne, Omar Kigalo, il nous appelle de Kinshasa. Nous parlons de la délinquance juvénile dans les centres urbains, cause et piste de solution. Vous voulez participer? Appelez-nous au 081 890 63 94.
Vous êtes jeune? Vous êtes curieux? Nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, actu people, emploi, environnement. Nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, point de vue et portrait de jeunes. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le feu de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Délinquance juvénile dans les centres urbains, cause et piste des solutions. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Sassama.
Et bon début de semaine.
Merci à vous aussi, notre journaliste très compétent.
On vous écoute.
Merci, Jody. Je ai mis le sujet sur la délinquance juvénile. Bon, je voudrais avant tout la détruire comme les infractions commises par les enfants. Et dans notre pays, les gens des infractions ont été réduits par les décrets. Janvier 1959.
Omar, la ligne n'est pas bonne ce matin. Pouvez-vous déplacer un tout petit peu? Peut-être que ça peut aller.
Oui.
C'est fait? Oui, ça va un tout petit peu.
Oui, je disais, ces genres d'infractions sont réglementées aujourd'hui par la loi de juillet 2009 et qui détermine que l'enfant, même s'il commet une infraction, ne peut pas faire la prison. Voilà ce que je voudrais apporter comme contribution pour dire qu'un enfant ne peut pas, par exemple, faire la prison. Il y a des mesures. Comme,
Omar, désolé, on vous écoute pas très très bien. Peut-être à trouver un autre. On va vous rappeler ou appeler nous avec un autre numéro parce que là on vous écoute pas. Désolé. Marin Mezo nous appelle de Kisangani. Bonjour.
Bonjour monsieur. Bonjour monsieur.
On vous écoute, Marin.
Ok. Selon nous autres, nous qui sommes ici à Kisangani, bien que nous soyons Kinois. Nous avons essayé de voir ceci à la cause de la délinquance juvénile est due aux réalités socio-économiques. Vous vous en souvenez que nous sommes serviteurs de Dieu, nous avons essayé d'évrer à Kinshasa sur place, hein, nous avons eu à sensibiliser les jeunes, les délinquants de Kitambo, du Grand Marché, mais en maintes reprises, ces jeunes gens, si vous réalisez les problèmes majeurs, ce sont les réalités socio-économiques de notre pays. Donc, par là, nous comprenons que l'État est mis au banc des accusés. La pauvreté a occasionné beaucoup de problèmes, et surtout les taux de divorce. Le manque d'encadrement de la jeunesse, l'exode rural, le manque d'emploi ont occasionné beaucoup de problèmes. C'est pourquoi que ce soit au niveau rural, que ce soit au niveau urbain, il n'y a pas vraiment des emplois. C'est la raison pour laquelle il y a souvent exode rural. Et les parents, parfois, n'arrivent pas à prendre en charge les enfants. Parfois, les parents n'arrivent même pas à se prendre en charge eux-mêmes.
Oui.
C'est pourquoi il y a des répercussions négatives au niveau de notre société. Les problèmes de malentendus dans les couples, dans les foyers, vous allez remarquer parfois, la femme devient maintenant insolente. Il est à l'endroit de son mari parce qu'il n'a pas vraiment de moyens. Et c'est ce qui va encore amener dans la plupart des cas de divorce.
Ok, alors
les enfants à l'école maintenant, les taux très élevés.
Bien, on retient, Marin.
Il faut que l'État puisse lutter contre l'analphabétisme, mais l'État maintenant lutte contre l'alphabétisation. Des taux exagérés au niveau primaire et secondaire. Mais c'est ce qu'on appelle communément c'est NAFEP. On en demande l'argent.
Alors,
au niveau
marin,
même des fins d'études,
marin,
primaires,
marin,
l'argent.
Marin,
les sommes exorbitantes, maintenant oui. Les parents ne sont pas en mesure de pouvoir maintenir pour la nourriture
oui.
Du début du mois.
Marin, et s'il vous plaît.
Parfois les enfants, les parents sont irresponsables.
S'il vous plaît, Marin.
Les enfants se disent que nous sommes nés. Ce n'est pas nous qui sommes venus dans ce monde par au hasard, par un fait du hasard. Nous
Marin.
Avons été invités par les parents,
bien.
Mais les parents n'arrivent pas à nous prendre en charge.
Oui. Marin,
on et retient... les parents à leur tour. Nous sommes...
Marin, merci. On retient qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous, vous dites qu'il y a, à cause des réalités socio-économiques aujourd'hui, notamment la pauvreté, le manque d'emploi, c'est ça qui a occasionné la formation de ces gangs des rues. Merci, Marin. Malonga, et il dit que l'État est sur le banc des accusés. Malonga, vous êtes à Bande de Nouville. Bonjour.
Oui, bonjour, Jody Kacham.
Nous parlons
de notre invité là.
Bien, quelle est votre question, Malonga?
Oui, en tout cas, je suis surpris d'explications de notre sociologue. Pour qui va ce qu'il vient d'expliquer, en évoquant les idées de ces auteurs américains, des gangs, tout ça. Est-ce que, je vais demander, on est né délinquant ou bien on devient délinquant? Puisque suivant les explications de notre invité, c'est comme si les délinquants ont leur génération, puisqu'ils sont nés comme ça, et on doit les respecter comme ça. Mais selon moi, je vois que la délinquance s'est adaptée, ou bien quelqu'un peut devenir délinquant, si tu as une situation quelconque comme ça.
Bien.
Mais les explications là, en tout cas, c'est ce que je demandais à l'invité.
Bien. Le professeur Norbert.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je préfère commencer par le dernier intervenant.
Oui.
Parce que je considère qu'il ne m'a pas très, 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 très bien suivi. Lorsque j'introduisais mon propos, j'ai fait voir aux auditeurs qu'il existe plusieurs manières d'expliquer la présence des enfants ou des gangs, des enfants délinquants ou des gangs dans les villes. J'ai parlé des théories à tendance biologique, à tendance psychologique, patati patata, et j'ai considéré que c'était plutôt la perspective sociologique qui me mettait moi à l'aise. Moi, en ma qualité de criminologue, je ne peux pas affirmer qu'il y ait des délinquants nés. Ça, ce sont des très vieilles théories qui relèvent des analyses de Lombroso, qui a parlé du criminel né. Non, ces théories-là ont fait leur beau temps à leur époque, mais présentement, elles présentent des limites énormes. Lorsque j'ai évoqué l'auteur américain, j'ai dit ceci. Cet auteur était intéressant par rapport à la localisation, à la cartographie, donc à la position physique, si vous voulez, de ces gangs. J'ai dit que ces gangs-là, par rapport à leur position, s'installaient dans une société d'abord inégalitaire, où on a des très riches qui semblent occuper le centre, et la périphérie où sévit la pauvreté. Et ces gangs ont tendance à s'implanter dans les zones intermédiaires. Ça, c'était pour éclairer un peu notre ami. Donc, la perspective sociologique soutient effectivement, comme il le dit, qu'on n'est pas né délinquant, mais on devient délinquant, par la manière dont la société fonctionne.
Bien.
Ça, c'est ce que je dis au deuxième intervenant. Mais par rapport au premier intervenant, qui fait appel aux réalités socio-économiques de notre pays. Mais je crois, si je l'ai bien suivi, peut-être erreur de ma part, il y a un peu trop de sentiments dans sa manière d'analyser les choses. Il y va de manière trop directe, c'est l'État qui est au banc des accusés. Il est vrai, mais nous devons savoir que la délinquance juvénile n'est pas l'apanage de la RDC. Même les sociétés, les sociétés dans lesquelles les réalités socio-économiques semblent bien marcher. Mais la théorie que je viens d'évoquer, c'est une théorie élaborée aux États-Unis. Donc, nous devons éviter un discours dramatisant. Nous devons un peu taire nos sentiments pour essayer de voir la réalité avec objectivité. Alors, lorsqu'il évoque la pauvreté, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que qu'est-ce que j'ai dit lorsque j'ai cité un auteur, Paul Grell, qui considère que les jeunes gens, à cause de leur vivacité, à cause de leur dynamisme, ils ne veulent pas l'humiliation. Si vous ne vous occupez pas d'eux, vous les laissez dans l'oisiveté, c'est alors qu'ils s'organisent pour s'affirmer, pour dire que nous sommes là,
quelle que soit la manière dont ils procèdent. Donc, ce qui est important, c'est voir, analyser le message qu'ils véhiculent à travers leur comportement.
Bien. Baudouin Mayanga nous appelle de Kindu au Maniema. Bonjour, Baudouin. Baudouin, bonjour.
Radio Capi. Je dis aussi bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Bonjour.
On vous écoute, Baudouin.
Oui, j'ai bien suivi. J'ai bien suivi notre invité. Il a dit, d'une part, ce qui provoque les délinquances juvéniles, la pauvreté des parents. Mais je vois ici à Kindu, il y a le parent à qui le moyen, mais ses enfants sont toujours délinquants dans la rue, ils se promènent, quand le papa a les moyens, ils ne veulent pas étudier. La deuxième question, mais comment maintenant lutter contre les délinquances juvéniles?
Merci. Baudouin nous dit que nous révèle qu'à Kindu, il y a des parents qui ont des moyens, mais leurs enfants sont des délinquants dans la rue. Et ils veulent pas étudier. Et il dit comment lutter contre ce phénomène, professeur Norbert.
Je suis très content de l'argumentation de notre ami. Et là, il me donne raison par rapport aux éléments de réponse que j'ai donnés au premier intervenant. Donc, le rapport qu'il faut établir entre la pauvreté et la délinquance juvénile n'est pas un rapport exclusif. Parce que la réalité des terrains montre parfois que même des familles qui sont plus ou moins aisées, parfois, lorsqu'on analyse les choses, ces familles-là produisent aussi des enfants qui tombent dans la délinquance juvénile. Donc, pour vous dire que il faut en réalité une analyse beaucoup plus complexe. Mais alors, quand il demande comment lutter. Et ici, peut-être, je vais dire quelque chose qui va blesser quelques consciences. Il faut laisser d'abord la réalité sociale s'exprimer. Parce que généralement, quand il y a des actes de délinquance qui sont posés, on a tendance à diaboliser les auteurs de ces actes. Mais à mon avis, on doit d'abord considérer que c'est ça la réalité de notre pays. Et nous devons avoir tous les deux pieds sur pierre pour bien regarder cette réalité en face et non diaboliser d'avance les auteurs de ces actes. Parce que généralement, quand on diabolise ces gens-là, on a tendance à recourir presque aveuglément aux méthodes trop répressives.
Mais professeur, les Koulouna se sont déjà exprimés, ils ont eu le temps de faire passer leur message. Alors maintenant, doit-on encore les laisser continuer à faire ce qu'ils font, à inquiéter les paisibles citoyens à l'aide des machettes?
Mais lorsque vous dites qu'ils se sont exprimés, est-ce qu'on les a entendus, on les a réunis, on les a entendus? Ça, c'est une question que je pose. Moi, je suis à Lubumbashi, je ne suis pas à Kinshasa. Mais moi, je considère que la meilleure manière de faire consiste à les rencontrer, à les organiser, à leur poser des questions. Mais je sais que le problème soulevé n'est pas si simple. Dans le cadre d'un cours que je donne, le cours de méthode et pratiques de traitement de la délinquance, nous considérons qu'il y a plusieurs manières, principalement trois manières, de prévenir et de lutter contre la délinquance. On peut procéder, première manière, au traitement individuel. Là, c'est un traitement qui est subsidiaire aux analyses psychologiques, ainsi de suite. Mais il y a aussi un traitement structurel qu'il faut faire. Mais là, ce sont des analyses sociologiques. S'il se révèle que la naissance des bandes de jeunes délinquants naît suite aux contradictions socioculturelles, suite à la désorganisation de la société, il faut à ce moment-là soigner la société. Mais parfois aussi, si on remarque que la délinquance des jeunes se développe autour de certains sites bien précis, là il faut développer ce que nous appelons en criminologie la prévention situationnelle. Il faut sérieusement sécuriser les centres ou les sites convoités.
Bien, on va y revenir dans quelques instants, professeur. Le temps d'accueillir des auditeurs, Blanchard Luana de Kinshasa et Kikoumi de Bukavu. Blanchard, bonjour.
Oui, bonjour, Jody.
On vous écoute.
Oui, ma question est de savoir si la pauvreté peut être forcément la cause principale de la formation des délinquants.
Ok, merci. Kikoumi, vous êtes à Bukavu, on vous écoute, bonjour.
Oui, bonjour, je dis Daniel. Vraiment, je remercie, c'est un bon sujet qui m'a fait intéresser. Là, dans le cas, c'est juvénile. Je suis Kikuni Bizos de Bukavu. Je suis étudiant de l'université Simon Kimango de Bukavu.
Oui.
Maintenant, ma contribution est celle-ci sur cet sujet, sur ce sujet-là. La délinquance juvénile, en fait, ici chez nous, ça devient un problème grave dans, la, dans cette ville.
Oui.
Pourquoi? C'est parce que d'abord, ça dépend, cette délinquance, ça dépend sur le plan psychologique et sur le plan sociologique des enfants. Vous voyez, il y a des enfants qui sont nés dans, la, dans une famille, là où il n'y a pas de parents. Les parents, ils ne savent pas comment éduquer les enfants. Les enfants, là, ils sont grandis de mauvaises habitudes. Et ces enfants-là, quand ils arrivent dans une société, ils posent de mauvais actes. Suite à quoi? Suite au manquement, par exemple, de l'argent. Les enfants ne sont pas bien nourris. Et en outre, ces enfants-là, ils ne sont pas scolarisés. Par exemple, je dis, je me rappelle, il y a un auditeur qui a parlé de gangs.
Oui.
C'est un groupe-là, de jeunes-là, qui sont formés dans, dans cette ville ici à Bukavu. Ils dérangent, ils volent. Suite à quoi? Au manquement de l'argent. Sur le plan aussi sociologique, c'est parce que l'environnement et aussi l'État congolais ne permet pas que ces enfants-là puissent être encadrés.
Alors,
nous demandons à l'État congolais d'encadrer ces enfants-là, d'encadrer la jeunesse pour que ça ne puisse pas tomber un jour, ça ne puisse pas créer une autre guerre, une autre rébellion dans notre pays. Et pour le psychologue, je demande aussi au gouvernement central d'essayer encore d'encadrer les psychologues. C'est parce que ça, c'est un impact pour, sur le plan psychologique. Ce sont les psychologues qui doivent éduquer les gens, mais aussi l'État congolais oublie l'importance des psychologues ici et dans notre pays. C'est parce qu'on ne voit pas les psychologues. C'est pour cette raison il y a des mauvaises habitudes, il y a des mauvais comportements que les gens sont en train d'afficher.
Merci,
c'est pour cela que j'ai voulu seulement réagir à ce sujet pour dire je souhaiterais que l'État congolais considère les psychologues et les sociologues au premier plan pour éduquer la société. C'est pour cette raison, au Congo, il y a toujours de mauvais comportements et de mauvaises habitudes.
Merci Kikumi, merci. Merci pour cette intervention. Professeur Norbert Loupidji.
Oui, je merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je partage largement les arguments avancés par les auditeurs. Le premier auditeur revient sur la pauvreté, mais là, on nous épargnera de faire des redites. J'ai répondu par l'affirmative, mais tout en considérant que la pauvreté ne peut pas être considérée comme la seule variable explicative de la délinquance. Donc, on ne peut pas établir un rapport exclusif entre la délinquance juvénile et la pauvreté. Il s'y est d'aller au-delà de cet aspect essentiellement économique. Et là, quand je développe pareil argument, je donne aussi raison à notre ami au deuxième intervenant de Bukavu, qui considère d'abord que le problème de la délinquance juvénile est un problème grave. Effectivement, monsieur le journaliste, c'est un problème grave. D'abord, vu les qualités de la catégorie dite des jeunes, numériquement d'abord, ils sont majoritaires. Ils sont largement majoritaires. Et par rapport aux autres qualités physiques, psychologiques, c'est une catégorie réputée vraiment endurante. Hein, c'est une catégorie de gens qui sont très entreprenants. Alors, si on ne les encadre pas, ils vont effectivement constituer une bombe à retardement.
Alors, professeur, si je comprends bien, la solution, c'est de réunir ces enfants, les écouter, les envoyer à l'école ou bien dans des centres de formation au lieu de les envoyer en prison?
Bon, avant d'en arriver là, moi je propose, il faut d'abord éviter un schéma simple, comme l'a dit un auteur là, Claude Walgrave, il faut éviter un schéma simple de la monocausalité. Il faut une causalité multiples, hein, qui relèvent à la fois des facteurs aussi psychologiques, des facteurs sociaux, économiques. Donc, comme préalable, c'est d'abord des études bien menées et des études pluridisciplinaires où et les psychologues, et les sociologues, et les criminologues pourraient se retrouver. Mais là où je voudrais effectivement insister, c'est que généralement dans notre pays, on a tendance à arrêter ces jeunes gens sans les avoir écoutés. Moi, je crois qu'il faut les entendre. Je disais en début de cette émission que lorsqu'ils agissent ainsi, il y a un message qu'ils transmettent. Est-ce que la société prend le temps
pour aller à la rencontre de leurs attentes. Il faut les écouter.
Bien, il faut les écouter. Nous allons terminer avec la réaction, avec un intervenant. Monsieur Moubaké nous appelle de Kinshasa. Il a sûrement une question. Monsieur Moubaké, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, quelle est votre question?
Bon, comme la fois passée, je me souviens avoir pris la parole encore presque le même thème. C'est un problème, c'est un fléau. Vous l'avez si bien dit. Même le professeur qui est votre invité le sait très bien. Notre problème, en ce qui concerne la délinquance au pays, n'est qu'une conséquence de ce que j'appelle le déficit d'une sorte de structure d'encadrement de la jeunesse. Nous avons un ministère, et ce ministère qui doit s'occuper de la jeunesse. Mais qu'est-ce que ce ministère fait à ce sujet? Qu'est-ce que ce ministère propose? Nous avons maintenant sur le bras les conséquences de le manque d'encadrement de la jeunesse. Encore une fois, je reviens à ce que j'avais dit la fois passée, M. Kachama. Plus de 70% de la jeunesse, je parle d'abord de la ville de Kinshasa, où il y a des millions d'habitants, 70% sont des délinquants, sont des jeunes, permettez. L'âge varie entre des mineurs de 14, 12, 13, jusqu'à arriver à 25.
70% de la jeunesse, donc 70% des jeunes sont des délinquants, d'après vous.
Je vous dis, sont des délinquants. Maintenant, ces jeunes-là, comme l'a si bien dit le professeur, ce sont des bombes à retardement. Mais ça, c'est grave. Mais moi, j'habite la ville, la commune de la Gombe. Voilà un exemple. Je suis sur les galeries présidentielles ici. Voilà un exemple, un cas d'espèce. Tout juste devant l'immeuble ici, qu'on appelle communément galerie 3Z. Mais ils sont là. Mais les policiers, ce qu'on appelle commissariat, je ne sais pas de la Gombe, tout ça, dans l'immeuble Ex-Regina. Mais il y a plus de 500 ou 300 policiers qui sont là. Mais ces délinquants sont sur le boulevard. Ils sont même assis sur les séparateurs. Ils sont en train de braquer ceux qui conduisent les véhicules pour voler les appareils, tout ça. Personne ne les inquiète. Je dis bien personne sur le boulevard. Vous voyez tout ça. L'État a démissionné.
Bien, merci.
Comme je l'avais dit encore la fois passée, oui. En ce qui concerne les jeunes qui s'adonnent à des danses obscènes, à des accoutrements qui frisent du banditisme. L'État doit prendre le taux par les cornes, comme on dit.
Bien, merci.
Il faut une...
Merci,
monsieur. S'il vous plaît, Kachaba.
Oui.
Je vais atterrir. Oui. Il faut une structure d'encadrement de jeunes. Et après avoir mis ça sur pied,
oui.
On verra, c'est dans cette structure qui sera mise sur pied. Les spécialistes sont là, M. Kachama.
Bien.
Je me souviens. Vous savez, c'est ça aussi le mauvais côté chez nous, ici au Congo. C'est oublier le passé, l'histoire. Pendant 32 ans du mobutisme, qu'on levait dans des plaies à ceux-là qui vont s'effacer. Il y avait des encadreurs dans ce genre. La jeunesse ouvrière, la GPR entreprise, et que sais-je encore. Où sont passés tous ces idéologues? Il y a des partis politiques, il y aura des spécialistes dans ces domaines-là.
Bien, M. Moubaké, on retient que les jeunes sont abandonnés à leur triste sort, donc il faut des structures d'encadrement de la jeunesse pour résoudre ce problème. Merci pour cette intervention. Professeur Norbert, pour terminer, quelles sont les solutions à envisager pour résoudre cette question épineuse, la délinquance juvénile dans les centres urbains?
Merci beaucoup. D'abord, je salue avec joie le dernier intervenant. Vous savez, dans les sociétés bien organisées, je pense aux sociétés européennes, quand vous y arrivez, vous allez croire que la délinquance n'existe pas. Or, c'est tout simplement la bonne organisation de la société. Donc, la société a développé des structures d'encadrement telles que, dès qu'il y a un jeune ou quelques jeunes qui s'égarent, on sait directement s'occuper d'eux et la réalité n'est pas trop apparente. Mmh. Ça, c'est un petit élément par rapport au dernier intervenant. Mmh. Mais maintenant, s'il faut me résumer, moi, j'ai dit ceci. J'ai introduit la théorie de gang développée par Tracher qui dit que les bandes, la plupart des bandes que nous voyons, c'est en fait une organisation différentielle par rapport à l'organisation de la société. C'est-à-dire, quelque part, on ne peut pas se cacher la face, l'État présente des faiblesses. Alors, les jeunes, trouvant qu'ils ne se retrouvent pas totalement dans l'organisation de la société, ils s'organisent pour lutter contre l'humiliation.
Pour s'affirmer.
Pour essayer de créer leur propre bonheur. Mais là, ce qui est important dans toutes les manifestations, dans toutes les provinces, c'est d'être attentif au message qui est communiqué. Est-ce que l'État prend suffisamment le temps pour les écouter avant d'installer même les structures d'encadrement? Parce que ça existe.
Ok. Bien. Merci, professeur Norbert Lupici. Je rappelle que vous êtes sociologue et criminologue intervenant depuis Lubumbashi dans la province du Katanga. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu surtout aux questions des auditeurs. Et bon début de semaine. À la prochaine.
Merci beaucoup, mon frère. Je crois que la question reste ouverte parce qu'elle est très pertinente. Merci beaucoup.